There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré au sport mécanique avec un invité taille XXL. Cette semaine, Sébastien Buemi sera avec nous, le quadruple vainqueur des 24 heures du Mans, a accepté notre invitation Stéphane pour évoquer la manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance, la Formule E, la Formule 1, on va parler de tout. Ouais. Ça va durer 5 heures, ça va être formidable.
Et figure-toi qu'on l'avait déjà eu dans les fous du volant et il avait gagné les 24 heures du Mans.
On a oublié de lui dire ça.
Et l'an dernier, on a oublié de l'inviter, surtout.
Il faudra y repenser quand même. Il faudra lui dire. Alors, avant de rejoindre Sébastien Buemi, on va quand même revenir rapidement sur le deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui a abouti à un deuxième doublé des Red Bull. Quelle surprise, rejointe sur le podium par Charles Leclerc et sa Ferrari. Et puisqu'on a négocié deux épreuves, on va isoler deux performances et deux défaillances qui ont attiré notre attention depuis le début de la saison. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc C'est fou du volant aujourd'hui avec deux tops et deux flops de ce début de saison, puisqu'il y a eu deux grands prix.
On s'est restreint quand même. Hein.
Ah oui, bah oui,
on par exemple. Généreux.
Par exemple, évidemment, le plus gros top, ça serait la plus grosse performance du début de la saison, ça serait évidemment Red Bull, hein, qui écrase la concurrence. C'est un petit peu ennuyeux, faut bien le reconnaître, mais on va pas le reprocher à ceux qui ont mieux travaillé que les autres. Entre nous, ça commence même déjà à poser des problèmes aux instances de la Formule 1, qui se rendent bien compte du danger de la situation. Il faut se souvenir aussi que lors du premier Grand Prix de la saison en 1998, c'était bien pire que ça. Les deux McLaren avaient été les seuls à finir dans le même tour. Le troisième, Ensar Alfrenzen, de mémoire, avait terminé à un tour. C'est pour vous dire que
Schumacher n'était pas arrivé.
Ouais, il avait cassé son moteur, on a vérifié. On ne va pas trop dire que Red Bull fait une performance incroyable. Oui, c'est vrai. Voilà, on passe donc aux performances qu'on a envie de mettre en avant. Et Stéphane, on va commencer par... c'était la cérémonie des Césars. On va commencer par un Oscar. Piastri, le pilote de chez McLaren, quatrième à Jeddah. Il avait été un petit peu plus discret à Bahreïn. Mais il a vraiment montré des gros progrès en Arabie Saoudite. Il est cinquième du championnat et ça fait un partout face à Lando Norris en qualif. Pour qui ça risque de se compliquer un petit peu sur cette saison 2024 si le rapport de force venait à lui échapper?
L'année dernière, c'était la saison de la révélation. Là, c'est parti pour être la saison de la confirmation. Moi, j'attends clairement qu'il prenne le pouvoir chez McLaren. Je pense qu'il a un talent naturel supérieur à Norris, qui est un super racer, qui est un jeune déjà bien installé. Il n'y a pas de problème. Ce qui me plaît beaucoup chez ce garçon, c'est son approche qui est humble. Il a encaissé des consignes d'équipe, etc. Il n'a jamais rien dit. Il ne fait pas de foin. Et il est là maintenant. Je regarde ses résultats en qualif, 8e et 5e. Surtout, c'est assez spectaculaire. Et puis en course, ça fait 8e et 4e. C'est-à-dire qu'il est aussi bon en qualif qu'en course. C'est-à-dire qu'il trouve déjà la limite de la voiture. Il arrive aussi à l'appliquer sur des relais longs. Ça, c'est la preuve d'une certaine maturité. Maintenant, franchement, c'est juste spectaculaire. Et puis, il a pris le lead d'une façon ou d'une autre parce qu'on lui a donné. McLaren a agi de la même façon que chez Mercedes. Ils ont réparti les risques en termes de stratégie quand la voiture de sécurité est intervenue. Et le pilote le mieux placé à cet instant a eu droit à la stratégie la plus logique, la plus favorable. Et c'est Norris qui a eu le plan B. Et Norris l'a payé, mais ça, c'est parce qu'il avait été déjà moins bon en qualif.
Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on sort un petit peu de vague à l'âme en ce moment chez Lando Norris. On rappelle qu'il a prolongé son contrat chez McLaren au mois de janvier. Le contrat qui était auparavant l'emmenait jusqu'en 2025. On n'a pas dit jusqu'où il allait maintenant.
Ouais, ils ont dit pluriannuel, donc c'est contrat, au moins 2 ans, sinon 3.
Mais on imagine que ça va au moins jusqu'à 2026. Et patatras, quelques semaines plus tard, Lewis Hamilton va chez Ferrari. Oui. D'un seul coup, Toto Wolff commence à faire la danse du ventre pour ramener Max Verstappen chez Mercedes. Et dans cet échiquier très mouvant, Lando Norris, il aurait peut-être eu une très très bonne carte à jouer. Peut-être qu'il a un petit regret et que d'un seul coup, Piastri est rentré dans sa tête.
Oui, alors... Concernant les transferts, de toute façon, un contrat peut se racheter. Donc, si ce n'est pas Toto Wolff qui le rachète pour le mettre à la place d'Hamilton, parce que pour moi, c'est la meilleure solution. Et Wolff a dit clairement qu'il aurait aimé le savoir avant.
Oui.
Il ira peut-être chez Red Bull. Mais on est en train de s'apercevoir que Piastri est aussi bon. Et ce serait peut-être Piastri qu'il faudrait prendre. Alors après, je ne sais pas jusqu'où vont les échéances. Le manager... d'Oscar Piastri, c'est Marc Weber qui l'a placé chez McLaren, et je pense qu'il veut l'installer vraiment de façon à long terme chez McLaren. Donc je pense qu'il va mordre de plus en plus sur Norris.
Ouais, dans les mollets effectivement du jeune Britannique, ça va être intéressant à voir comment ça va évoluer ça et comment ça va être géré aussi du côté de Zak Brown, parce que les affaires vont peut-être un petit peu se compliquer sur ce point-là. L'autre performance qu'on avait envie de mettre en avant, alors c'est un peu compliqué parce que ça n'est basé finalement que sur un Grand Prix et sur 2 séances d'essais libres un petit peu tronquées, c'est la performance de Carlos Sainz, 3e de la manche d'ouverture.
Il a mis une claque à Leclerc quand même.
Oui, clairement, c'était quand même un gros signal envoyé, sachant que il sera remercié par Ferrari à la fin de la saison. Et alors il a fait les 2 premières séances du Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais il commençait déjà à souffrir de son appendicite. Il a été obligé de lâcher le volant. Il est revenu dès le samedi matin pour participer donc au jour de la course. Il va falloir maintenant revenir en Europe, ce qu'il est sans doute en train de faire au moment où on enregistre ce podcast, et repartir en Australie la semaine prochaine avec les conséquences d'une opération qui reste quand même une opération chirurgicale. Ça va pas être facile, mais je trouve qu'il a quand même marqué des points à la fois dans son approche très professionnelle. Il a reconnu que c'était pas une bonne nouvelle, la façon dont il a pris la nouvelle, la façon dont il a réagi sur la piste. Je trouve qu'il a marqué des points.
Il a du caractère et on le rappelle, c'est quelqu'un qui cherche un volant pour l'année prochaine. Alors est-ce qu'il est sur la liste Red Bull, mais pas comme un numéro 1? On sait qu'il n'est pas assez souvent dans la peau d'un leader dans une équipe, mais faute de mieux, il serait déjà très très bien chez Red Bull ou alors chez Mercedes. Mais bon, ça serait un peu un échange Sainz-Hamilton, et je doute que Toto Wolff opte pour ça. Mais la meilleure solution, c'est Audi.
Connaissant les connexions qu'il y a entre la famille Sainz et le groupe Volkswagen, qui est un peu l'ennemi juré de chez Mercedes, ça paraît un petit peu compliqué. L'autre bonne nouvelle du dernier week-end pour Carlos Sainz, malgré son forfait, c'est qu'on a appris que Audi avait bel et bien racheté Sauber. On avait quelques doutes, comme on commençait à se dire « Oh là là, il y a quelques messages un petit peu bizarres qui arrivent ». Bon, ça y est, c'est fait.
Parce que tous les signaux que nous, on avait quand on prenait la température en interne chez eux, on disait « Audi n'investit pas pour l'instant chez Sauber, c'est point mort ». Et il y a eu tout un tas de rumeurs, le moteur est en retard, ils vont finalement faire demi-tour, ça ne les intéresse plus. Pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Des questions de politique au plus haut niveau de chez Audi. Non, rien de tout ça. Il prendrait même 100% des parts de Sauber, qui a toujours été malin, qui a revendu des morceaux de son équipe en les rachetant gratuitement quasiment après à BMW, etc. Il est fascinant, franchement, Peter Sauber, pour ça. Mais maintenant, ça y est, c'est parti. La seule petite question, ça serait effectivement de piloter une voiture qui n'avance pas tellement actuellement en 2025 avant de se retrouver dans une vraie dynamique en 2026 pour Carlos Sainz. En tous les cas, il s'est bien vendu là à Jeddah. Franchement, on a vu que il était durant mal.
Exactement. Parmi les flops, maintenant, alors il y en a beaucoup. Évidemment, Compte tenu de la situation sportive et du classement des équipes, on aurait pu parler d'Alpine, hein, qui est vraiment, vraiment dans le dur. Ça nous embête un petit peu, donc on va laisser les hommes de Bruno Famin essayer de trouver des solutions. On avait plus envie de parler d'un flop souriant, un flop ultra bright, vous me voyez venir. C'est le sourire de Daniel Ricciardo. Déjà, il n'y a pas de points après deux Grands Prix pour l'Australien. Il a fini 16e à Jeddah et à 10 secondes de son coéquipier Yuki Tsunoda. C'était donc trop loin pour qu'on lui demande aux deux pilotes d'inverser leur position, comme ça a été fait à Bahreïn la semaine précédente. Honnêtement, on n'a pas le sentiment qu'il y ait une plus-value Ricciardo en ce début de saison chez Racing Bull. Et l'autre problème pour l'Australien, c'est que son gros soutien, celui qui vraiment a milité pour le remettre dans la voiture, Christian Horner, en ce moment, il a un petit peu d'autres combats à mener de son côté et il ne va pas trop avoir comme souci de protéger Daniel Ricciardo. C'est compliqué pour Ricciardo en ce moment.
Vous l'avez dit, en faisant le bilan de la saison 2023, Ricciardo est en pré-retraite et je maintiens. Il était sous perfusion à Sakhir, consigne d'équipe, etc., pour juste rester devant. Et là, il a été transparent. Le remettre dans la voiture pour ça, ça ne sert pas à grand-chose quand tu sais, encore une fois, qu'il y a un Liam Lawson qui est en réserve et qui irait peut-être certainement plus vite. Alors, je vois la qualif, deux fois 14e et puis en course 13e, 16e, avec en plus deux abandons. Qu'ils l'ont peut-être remonté de deux positions. Donc, ça veut dire que ce n'est pas brillant et sa carrière s'éteint petit à petit.
Et puis surtout, tu parles des qualifications, mais Yuki Tsunoda est passé en Q2 alors que lui n'est pas passé. Là, il y a un vrai signal quand même.
Je pense qu'il a... Il a perdu ses repères à force de changer d'équipe aussi, d'habitude. Helmut Marko avait dit que quand ils l'ont remis au simulateur chez Red Bull pour faire le point qu'ils avaient... Ils ont constaté qu'il avait pris de très mauvaises habitudes dans les autres équipes et qu'il avait un peu perdu son feeling, sa façon de faire. Et je pense qu'il ne l'a pas retrouvé.
Et là, le problème, c'est que ça commence déjà à faire quelques temps, parce qu'il est revenu en cours de saison l'année dernière. Alors, la voiture est nouvelle. On va voir ce que ça va donner. Mais notre premier flop que l'on voulait mettre en avant, c'est celui de Daniel Ricciardo. Le second, il est un petit peu plus délicat à avancer. Mais c'est Lewis Hamilton qui est un petit peu décevant en ce début de saison. Quelque part, on ne retrouve pas la patte Hamilton. Alors, est-ce que c'est à mettre directement en relation avec le fait que Lewis Hamilton va quitter Mercedes à la fin de la saison pour rejoindre Ferrari? J'ai du mal à me faire une réelle opinion sur le sujet.
Inquiétant pour le moins, il n'y a pas de progrès, ça ronronne. Franchement, je regarde ses qualifications en 2023 sur les deux premiers Grands Prix, 9e et 8e, et là 7e et 9e. Donc ça se ressemble vraiment. Et en course, 7 et 8, et cette année 9 et 8. Donc on est vraiment dans la même zone de performance. Il a été battu deux fois en qualif et deux fois en course par son coéquipier, George Russell. Donc là aussi, c'est pareil. À partir de deux fois, ça devient une habitude quand même. C'est assez étrange. Et il avait eu des problèmes de setup à Sakhir. Et l'équipe ne l'avait pas aidé. Mercedes qui s'était planté dans le bilan thermique de la voiture, c'est-à-dire que le moteur n'était pas assez refroidi, donc ils avaient été obligés de ne pas utiliser toute la puissance, dégrader le moteur en course, donc ça ne l'avait pas aidé. C'est sûr que l'année dernière aussi, sur une course comme Bahreïn, il avait tenté un pari stratégique et c'est la voiture de sécurité qui a mis par terre son plan de course. Et là, cette année, c'est à Jeddah, mais il en manque. Moi, je sens que il n'y est plus tout à fait. Hamilton a perdu son mojo, je pense. Et tout ce qui se passe dans la voiture, de toute façon, est mauvais. James Allison a changé l'essieu arrière de la voiture pour corriger ce train arrière qui était instable. Et ils ont retrouvé cette année les mêmes défauts que sur la voiture de l'année dernière. Et le plus dommageable, c'est que Lewis Hamilton est un pilote qui est survivant, c'est-à-dire qu'il demande beaucoup de grip sur le train avant pour inscrire la voiture de façon franche dans les gars et sentir que ce train arrière peut décrocher, mais tout en contrôlant les décrochements. Sauf que là, le train arrière ne lui donne pas de confiance parce qu'il est instable et les pilotes détestent ça. Et je pense que Jeddah, c'était l'enfer pour lui là-dessus. Mais là, comme l'année dernière, je ne pense pas qu'ils vont parvenir à corriger ce défaut. Et donc, on va en rester là, franchement, sur,
j'ai
sur
son
pilotage.
J'ai une petite question. Quand tu nous dis qu'il a perdu son mojo, pour toi, il l'a perdu définitivement ou c'est...
Ah, je pense,
j'ai quand même le sentiment, alors, moi, que là, il relâche un petit peu la pression parce qu'il sait qu'il va y avoir un challenge énorme à partir de l'année prochaine chez Ferrari et qu'il remettra la pression l'année prochaine. Et toi, tu as une vision peut-être un petit peu différente ?
À Sakhir, en fait, il oriente son setup sur la course parce qu'il court après cette 104e victoire dont il a besoin. Il est sevré de victoire pour quelqu'un de ce niveau-là depuis 2 ans. C'est quasiment insupportable. Et je pense que ce n'est pas qu'il est émoussé, mais il a perdu quelque chose. Et j'ai peur même que cette histoire de Ferrari, ce soit pour essayer de retrouver un peu la flamme, quelque chose. Mais là, je ne le sens pas bien. Quand il était en la poursuite de la McLaren dimanche, il fait une erreur, il perd un peu le contact et c'est terminé. Dans les derniers tours, on sent qu'il ne va pas la dépasser. L'objectif, c'était Berman, la 7e place. Il l'a encore moins rattrapé. Donc, je sens que ça va être encore une année de galère pour lui. Et puis, là, il a mis en avant aussi le fait que pour la 3e année consécutive, la voiture rebondissait, ce qui l'insupporte aussi, instabilité aussi sur les freinages. Enfin, ça va être super compliqué. Ils vont passer leur temps à corriger ces défauts-là chez Mercedes sans forcément y parvenir.
Ouais, et surtout, il aura sans doute pas la priorité. Hein,
mais non,
dans,
surtout
dans,
que
dans le, essayer de régler.
Russell
les solutions
se plaint moins du train arrière que lui, donc ça va. Ils vont peut-être moins s'en occuper. Alors si, parce que c'est une question de performance forcément, mais on va plus écouter Russell et moins Lewis Hamilton.
Voilà donc pour nos tops et nos flops après 2 Grands Prix. Bah, ça va être le moment maintenant de se connecter du côté de la Suisse et on va retrouver Sébastien Buemi. Et comme promis, on reçoit donc aujourd'hui, alors j'ai dit dans le sommaire un invité XXL, mais c'est même plus que ça. Il faudrait
non,
mettre
légende.
Au moins 4X pour les 4 titres de champion du monde d'endurance, pour les 4 victoires aux 24 heures du Mans. Merci beaucoup Sébastien Buemi d'être une nouvelle fois dans les fous du volant. J'ai pas calculé, mais je pense que ça doit être une fois par an en fait que vous venez nous rendre visite. C'est toujours un privilège de vous avoir parmi nous.
Mais c'est vrai, moi aussi c'est un privilège pour moi. Non, je suis content d'être parmi vous.
Sébastien, alors, vous êtes pilote de Formule 1 chez Envision, évidemment pilote chez Toyota en endurance, et également pilote de développement, en tout cas au simulateur chez Red Bull. Peut-être une petite question quand même sur ce début de saison. Vous avez plutôt bien travaillé du côté de chez Red Bull. Ça se passe pas trop mal après 2 Grands Prix.
Ouais, on est très content, même si voilà. Je contribue une toute petite partie, hein, vraiment, vraiment petite. Hein. C'est vrai que le gros du boulot, bien entendu, il est fait dans le développement de la voiture au niveau aéro et sur la piste avec Max et Sergio. Ils ont fait vraiment le beau boulot. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Après, c'est un travail de longue haleine. On a commencé il y a maintenant longtemps à travailler sur cette nouvelle voiture. Je dirais qu'à partir de mai-juin de l'année passée, on avait déjà, entre guillemets, un petit peu basculé sur la voiture de 2024. Donc, on est content de voir que ça porte ses fruits, puis que la voiture est compétitive et que ça va dans la bonne direction.
On va parler d'endurance beaucoup, Sébastien, avec vous aujourd'hui, après l'épreuve donc des 1812 km du Qatar. Je suis désolé, je ne vais pas être très très agréable, ça ne se fait pas avec un invité. Et seulement une 9e place, c'est quoi le bilan que vous tirez de ce passage au Qatar ? Personnellement, nous, ce qu'on a dit, c'est que du côté de l'équilibre des performances, on n'avait pas fait de cadeau aux hypercars, hein, parce que les Toyota, les Ferrari étaient quand même un petit peu dans le dur au Qatar.
Ouais, alors c'est vrai que pour nous, c'était un week-end compliqué. Après, en performance pure, on n'était pas au niveau des Porsche ou même des Peugeot ou comme ça. Donc c'est sûr que on a essayé de limiter les dégâts. Après, on est un petit peu déçu avec cette 9e place. Je pense que la voiture sœur a fait une bien meilleure course. Elle n'était pas plus rapide. Hein. Je pense vraiment pas qu'elle était plus rapide, mais elle a pas eu de problème au pit stop. Nous, on a eu pas mal de soucis au pit stop. On a perdu beaucoup de temps. Je pense que par rapport à eux, on a perdu pas loin de 45 secondes, une minute, je dirais même. Et voilà, à part ça, le départ en partant 11e, c'est sûr que c'était compliqué. On a pas eu une belle qualif. Donc oui, on est déçu, mais malgré tout, on met quand même les 2 voitures dans les points pour un week-end qui s'annonçait extrêmement compliqué avant même d'y aller. Voilà, on n'est pas satisfait avec ça, bien entendu, mais on espère que pour Imola, on va réussir à remonter un petit peu la pente et que la piste en soi nous conviendra un peu mieux.
Vous avez tout gagné en 2023, sauf les 24 heures du Mans. Vous avez parlé de changement organisationnel, de changement de process, de travail dans certains domaines. Le directeur technique aussi, Pascal Vasson, a pris d'autres fonctions dans l'équipe. Quels sont ces changements que vous avez apportés pour 2024 pour essayer de contrer cette armada encore plus impressionnante cette année?
Bon, même si de l'extérieur, ça paraît être de gros changements, de l'intérieur, ça reste des petits changements, des petits ajustements. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser un petit peu ce qu'on a. Après, c'est sûr qu'on n'a pas envoyé forcément un message très bon après cette première course du Qatar, puisqu'on n'était pas forcément au niveau. Même si, avant d'y aller, on savait que ça allait être compliqué du fait que, sur le papier, c'est vraiment pas une piste qui nous convient. En tous les cas, voilà, nos points forts, on n'arrive pas à en tirer grand-chose sur ce circuit-là. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce changement d'organisation. Pour nous, les pilotes, ça change pas énormément parce qu'on se recalait sur notre job avec nos ingénieurs dédiés. Après, voilà, les choses étaient très bien en place maintenant chez Toyota depuis plusieurs années. Pascal a fait un super boulot et maintenant David Flory, qui était bien entendu déjà impliqué depuis 2012, hein, depuis le retour de Toyota au Mans. Donc pour nous, c'est pas vraiment une grosse différence, quoi.
On se posait la question, Stéphane, oui. Peut-être sur le trafic.
Oui, alors attends. Je vais revenir sur un autre paramètre aussi qui a changé, c'est l'arrivée d'un nouveau pilote, Nyck de Vries. Ah, oui. Est-ce que justement il a eu un input particulier qui s'est vu déjà au Qatar, ou en tous les cas, c'est du sang neuf, c'est un regard nouveau. Forcément, c'est très intéressant et les autres pilotes sont attentifs à son ressenti, son feedback, des solutions qu'il peut avoir.
Ouais, c'est vrai que il a fait du très bon boulot là-bas. Ça fait un moment qu'il testait avec nous, donc disons ça fait longtemps qu'on sait exactement ce qu'il pense de la voiture et les endroits sur lesquels il faut travailler. Maintenant, il y a pas grand-chose de niveau de ce côté-là. Je veux dire, on la connaît très bien cette voiture, ça fait plusieurs années qu'on la roule, on connaît bien ses forces et ses faiblesses. Après voilà, avoir quelqu'un en plus qui est là pour pousser dans la même direction, c'est toujours bien. Et oui, c'est vrai que voilà, on s'adapte maintenant. L'équipe a un petit peu évolué. Il y a quelques années, avec le départ de Kazuki, l'arrivée de Rio sur ma voiture. Nous, cette année, on a de la stabilité, ce qui était quelque chose qu'on n'a pas eu pendant pas mal d'années. Donc, on est assez content avec ça. Puis, on espère que sur la longueur de la saison, ça nous permettra de voilà tirer notre épingle du jeu.
J'évoquais là le trafic qui est toujours un petit peu particulier hein, sur ce circuit. Le fait qu'il y ait désormais plus d'hypercars sur la piste, je crois qu'il y en avait 19 là au Qatar. Le fait aussi oui. Qu'il n'y ait plus de LMP2 et qu'il y ait des GT3, est-ce que ça change la donne ou est-ce qu'au final ça n'a pas changé grand-chose?
On bouge quand même le curseur assez considérablement. L'année dernière, c'est 13 hypercars. Cette année, c'est 19, c'est 50% de plus, si je calcule bien. Ça doit se voir, ça doit se sentir aussi en piste.
Ouais, c'est vrai que moi, je pensais pas que je le ressentirais comme ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de différences. Pourquoi? Alors déjà, en essai libre, vous retrouvez très facilement derrière une hypercar, ce qui était relativement rare l'année passée, ou encore plus l'année d'avant. Et c'est vrai que voilà, s'ils vous laissent pas passer, c'est très difficile de dépasser. Alors peut-être un peu moins sur un autre circuit, au Qatar, c'est un circuit très difficile à dépasser. Et donc par conséquent, au niveau trafic, même si elles vont vite ces voitures, puisqu'elles vont aussi vite que les nôtres, on a l'impression d'être pas mal impacté, de pas pouvoir faire des belles séances d'essai. Après, avec les GT3, on ressent quand même qu'elles sont moins rapides que les GT Pro. On ressent aussi qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est vrai que le management du trafic, il est différent. C'est une autre dynamique par rapport à ce qu'on est habitué. Donc, ça demande un petit peu d'adaptation. Et à nous, voilà, de bien nous adapter, de pas faire d'erreurs et de bien évoluer. C'est vrai que le Qatar, c'est quand même une piste très large. Là, on va aller à Imola. C'est vraiment pas large du tout, donc va falloir faire attention.
Va falloir être prudent, effectivement. Si si on vous proposait sur le papier d'inverser la ligne de résultats par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire ne remporter aucune course du championnat du monde, mais aller gagner les 24 heures du Mans devant vos adversaires Ferrari, Porsche, Cadillac, ça vous signeriez, Sébastien?
Ouais, je pense quand même, oui. Après, gagner Le Mans, vous marquez beaucoup de points. Puis qui dit ne pas gagner des courses, ça veut pas dire terminer 9e. Donc si on arrive à terminer 2e à toutes les courses et gagner Le Mans, à mon avis, on a une bonne opportunité pour le championnat là aussi.
Le
Donc
deal est bon.
voilà, bon, le deal peut potentiellement être très bon, mais on va voir. Voilà, la saison elle est longue. C'est sûr que c'était pas tout à fait l'entame de saison qu'on espérait. On a appris, on a fait quelques erreurs, donc j'espère que pour Imola, on va un petit peu redresser la barre de ce côté-là, parce que c'est vrai que le circuit était difficile, il y avait très peu de dégradation de pneumatiques, il y avait beaucoup de virages très rapides et pas beaucoup de virages lents. C'est toutes des caractéristiques où nous, d'habitude, on arrive à tirer notre épingle du jeu, un petit peu comme Bahreïn, quoi. Ça, c'est un bon circuit pour nous.
Alors, il y a quelque chose qu'on se, une question qu'on se pose à chaque fois quand on regarde la composition de Toyota, c'est que l'un des pilotes est aussi directeur de l'équipe. Alors, on sait qu'en sport méca, ça compte beaucoup, hein, un patron qui a le ressenti, qui sait ce qui se passe dans la tête d'un pilote et spécialement en piste. Quelle est la contribution de Kawi Kobayashi au quotidien, dans les décisions? Est-ce qu'elles sont plus orientées justement sur les pilotes? Est-ce que ça fait un plus incontestable par rapport à d'autres équipes?
Je dirais que oui. Alors, je peux pas juger comment les autres équipes fonctionnent, mais disons, ce que je vois avec Camus, c'est que bon, il est bien au courant de toute la problématique qu'on a nous, les choses qu'on a besoin pour aller plus vite. Après, maintenant, petit à petit, il est aussi bien au courant du reste des problèmes. Il fait quand même pas mal d'heures en plus. Je le vois arriver plus tôt, partir plus tard par moment, faire
Fait des
beaucoup de
heures sup.
rendez-vous. Ouais, il fait un peu des heures sup. Mais c'est sûr que ouais, il a une bonne vision. Il est là depuis longtemps. Il sait comment ça fonctionne. Il connaît bien toute la partie du Japon. Donc, je dirais que pour nous, c'est un plus d'avoir quelqu'un comme lui à la tête de l'équipe. Après, voilà, des fois, c'est peut-être pas forcément facile, hein, tous les jours pour lui, parce que ça représente pas mal de charges de travail.
Je me pose une question, je veux surtout pas vous mettre en difficulté, Sébastien, vous nous répondez honnêtement. Je sais qu'il y a une consigne de ne pas parler de la balance de performance en endurance, mais dans ce que j'entends de ce que vous nous dites, vous avez terminé 9e, l'autre voiture a terminé à la 6e place, ça n'est pas dû que à une balance de performance qui était assez défavorable. Il y a d'autres choses à faire progresser sur la voiture pour être plus performant à Imola, à Spa et évidemment au Mans après.
Oui, alors c'est sûr que je ne veux pas m'exprimer sur la BOP. Une fois que les choses sont décidées, je pense toujours à comment optimiser ce qu'on a. Après, on peut tout remettre en question, mais c'est sûr que nous, on repart du Qatar et on se dit, ben voilà. La course s'est déroulée de telle manière, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et quelles étaient nos limites? Donc après, on travaille dessus, peu importe. Voilà, si on peut, on travaille dessus tout de suite et on essaie de redresser la barre pour Imola ou améliorer. Après, ça ne veut pas dire que l'année passée, on n'avait pas de problème et qu'on faisait tout juste. Mais cette année, c'est sûr qu'au Qatar, il y a certaines choses où on aurait pu mieux faire et on va travailler à fond là-dessus.
J'ai regardé sur la course du Qatar, on a eu un peu plus de 6 minutes de full course yellow sur un total de 10 heures de compétition. C'est faible finalement. Est-ce que ça aussi, ça se ressent dans le trafic quand il faut prendre des risques? Est-ce que les pilotes sont un petit peu plus sûrs? En tous les cas, ils ont fait moins d'erreurs, il y a eu moins d'incidents. Est-ce qu'on va vers ça progressivement aussi sur les autres épreuves cette année?
Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que c'est plus une coïncidence, le fait que c'est peut-être le circuit qui s'y prêtait bien. Je veux dire, il y avait pas mal de petites sorties, mais c'est tellement goudronné de tous les côtés que petite sortie, vous repartez. Voilà, juste eu la Ferrari, si je ne me trompe pas, qui a perdu le capot arrière ou l'aileron arrière. Bon, ben là, il a fallu faire un full course yellow. Mais disons, non. Je pense que le circuit s'y prêtait bien. Après, Imola, je pense que ça serait une autre histoire parce que il y a de l'herbe, il y a des murs. C'est pas large, beaucoup de voitures, petit circuit, je m'attends quand même à plus de contacts sur un circuit comme Imola.
Ouais, les sorties seront sans doute beaucoup plus sanctionnées à Imola, à Spa, au Mans, pour juste s'arrêter à cette partie-là de la saison.
Exactement.
Ça peut changer la donne. Mais ce point-là sur les full course yellow, ça a joué un rôle pour les 24 heures du Mans l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'incidents, notamment sur l'autre voiture de chez Toyota avec des slow zones. C'était les slow zones, hein, qui étaient en cause. j'explique pour ceux qui sont pas au fait. Il y a que au Mans en fait où on découpe le circuit en tronçons et quand il y a un incident, en fait, on va demander aux voitures de rouler. Je parle sous le contrôle de Seb, ça doit être 80 km/h, quelque chose comme ça.
Exactement. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Dans un tronçon de la piste. Et l'année dernière au Mans, il y a eu beaucoup d'accidents. Je pense à la Cadillac, à la voiture sœur de chez Toyota qui ont été percutées par des pilotes moins aguerris et qui se sont fait surprendre par l'entrée dans la slow zone. Ça, c'est des choses qui sont remontées auprès de la direction. J'imagine que les grosses équipes, les pilotes professionnels sont pas fait piéger. C'est des choses qui sont remontées, qui devraient plus se produire, j'imagine. On espère.
Ouais, on espère. Hein. C'est des choses sur lesquelles on discute pas mal avec la direction de course. Alors, l'idée de ces tronçons, c'est pour éviter de bloquer toute la piste pendant des heures. C'est tout d'un coup, il y a une réparation qui doit être effectuée sur un rail de sécurité ou sur une protection Tech Pro de pneus. Donc l'idée, pour moi, elle est bonne, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains endroits où peut-être la slow zone pourrait être un petit peu aménagée différemment pour éviter de surprendre les pilotes comme ça, parce que les accidents arrivent souvent quand même dans les mêmes slow zones, dans des endroits, par exemple, comme le Tétre Rouge, c'est un endroit qui passe extrêmement vite, hein, aux alentours de 220-230 km/h. Et là, vous demandez aux voitures de ralentir à 80. Certains, s'ils sont pas voilà, si on leur dit pas à la radio, bien avec un peu de temps, certains vont faire quelques erreurs au lieu de ralentir. C'est ce qui arrive à la 7. Elle ralentit dans les temps pour se mettre à 80 avant cette ligne qui est peinte au sol, hein, parce que il y a 9 tronçons, elles sont peintes par terre les lignes, donc on les voit bien. Et c'est sûr que celui qui suivait, il a pas vu que Cameron ralentissait, quoi.
Alors, j'en viens justement à cette édition 2023 des 24 Heures du Mans qui a été riche d'enseignements à beaucoup de points de vue. Ça veut dire que Toyota a perdu une voiture en lice, en tous les cas, pour la victoire sur un coup du sort. Là, quand je vois cette année qu'on peut avoir 23 ou même peut-être 24 hypercars, ça dépend s'il y a une Porsche qui vient s'additionner de chez Proton, ça en fera 7 en tout, avec 3 Cadillac et 3 Ferrari depuis cette année. Est-ce que Toyota va maintenir son approche en fait avec deux voitures ou vous êtes dans une réflexion d'engager une troisième voiture? Toyota a déjà dit que ça demandait des moyens, ça demandait de l'organisation supplémentaire. C'était une autre dimension en termes de logistique pour vous.
Ouais, alors bon, je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question. Je pense qu'il faut que ça soit plutôt dirigé vers David ou Rob, on va dire, de l'équipe, ou même Camry. Moi, de ce que j'ai vu, c'est que voilà, c'est très compliqué. On l'a fait une fois, ça coûte très cher aussi. Et je pense que Toyota, voilà, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on est à deux voitures. On a l'habitude de ça. Voilà, j'ai pas été mis au courant d'une autre idée, mais maintenant, je sais pas comment ça va évoluer. C'est sûr que voilà, moi, je suis sur la 8, j'essaie de faire le mieux possible. La 7, elle nous aide quand même bien, mais je suppose qu'avec trois voitures, vous pouvez en retirer quelques avantages, même si ça vient aussi avec quelques problèmes en plus.
Et puis ça fait un adversaire en plus pour vous.
Ouais, en plus.
Je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement.
On a fait bonne voiture en plus, oui. Si c'est une Toyota, ça serait d'autant plus dangereux.
Alors, figure-toi qu'on n'a peut-être pas fait le tour des pilotes Toyota, parce que je voyais qu'un garçon comme Kalle Rovanperä, champion du monde des rallyes, est tenté aussi par l'expérience endurance. Je crois qu'il va commencer une formation, en tous les cas, approcher la discipline. Qu'est-ce que vous en pensez? Sébastien Ogier avait déjà essayé ça, avait exprimé un attrait pour les 24 Heures du Mans et il y avait pris part en LMP2 pour essayer de s'engager, mais il n'avait pas donné suite.
Et puis Sébastien Loeb a fait deuxième aux 24 Heures du Mans quelques années plus tôt. Accueillir Kalle Rovanperä, ça, c'est faisable d'après vous?
Bah, tout est faisable. C'est vrai qu'on a eu Sébastien pendant pas mal de séances d'essai. Il roulait après en LMP2, mais on a fait pas mal de tests avec lui. Je veux dire, c'est un pilote très rapide qui s'adapte extrêmement rapidement à toutes les conditions. Donc, je pense que tout est possible. Je pense que Rovanperä, c'est la même chose. Maintenant, voilà, je suis pas forcément la personne la mieux placée pour commenter là-dessus, mais tout est ouvert, moi, pourquoi pas.
Alors, j'ai une question complémentaire sur le WEC. Le projet Toyota, en fait, de courir avec une voiture hydrogène en 2026, est-ce que ça vous intrigue, ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous en avez eu comme retour? Et est-ce que c'est l'avenir plus que l'électrique, si j'ai bien compris?
Alors bon, c'est
Au Mans, hein, on parle.
voilà, je connais pas tout, hein, mais je sais que voilà, ce véhicule qu'ils ont présenté durant les 24 heures l'année passée, c'est un petit peu ce dont on peut attendre pour la première voiture hydrogène. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de retard, pas forcément du côté Toyota, mais plus du côté du règlement avec en voulant aller avec de l'hydrogène gaz, mais non liquide. Il y a pas mal de discussions, donc je ne sais pas exactement où ça en est, mais pour moi, c'est 2026, c'est pas possible, quoi. Ça sera pas avant 2027 ou 2028 de ce que j'ai entendu, mais voilà, je suis pas assez informé pour pouvoir vous répondre vraiment là-dessus. Moi, l'important, voilà, c'est d'avoir une voiture qui me permette de me battre aux avant-postes et de gagner des courses.
Ouais, mais
Mais
Toyota,
si je peux rouler sur cette voiture, c'est avec plaisir, quoi.
est clairement précurseur hein, dans cette éventuelle nouvelle catégorie de l'hydrogène. On a fini sur l'endurance, Stéphane? Encore une
Ah
question?
ben, écoute, non, on est bien. Je crois qu'on peut passer à une autre facette de la carrière de Sébastien, puisqu'il est multicarte,
Eh ouais, c'est
pilote
ça
à
qui est bien.
360.
On va parler formuleux, si vous le voulez bien, Sébastien. Quand même pour rappeler que vous êtes donc pilote pour l'équipe Envision depuis la saison 2023. Et alors, pour ceux qui suivent ça d'un petit peu loin, d'abord, c'est pas bien parce que c'est franchement un championnat qui est hyper intéressant avec beaucoup de dépassements. Je dis ça au passage pour faire un peu de pub parce que c'est sur Eurosport. Envision, c'est quand même un cas particulier, une équipe donc cliente qui dispose d'un moteur Jaguar qui a battu Jaguar au championnat par équipe l'année dernière, et vous avez participé à ce titre. Sacré tour de force quand même pour votre équipe Envision.
Ouais, je pense que c'est une équipe qui méritait de gagner le championnat maintenant depuis plusieurs années. Hein. C'est une équipe qui s'est battue aux avant-postes depuis le tout début, hein, que ce soit à l'époque où elle roulait avec un moteur Audi contre l'équipe Audi officielle, ou même avant ça avec DS. Je veux dire, ça a toujours été une équipe très rapide. Hein. C'était l'équipe Virgin avant de devenir Envision. Donc moi, voilà, je suis très content d'être dans cette nouvelle équipe. C'est sûr que l'année passée, j'ai montré une belle pointe de vitesse à pas mal de reprises, mais j'ai manqué un petit peu ou de réussite ou un petit peu en course. J'ai fait quelques erreurs qui m'ont fait perdre pas mal de points. Je termine sixième du championnat. Cassidy termine deuxième. Bon, ça suffit pour gagner le championnat par équipe qui était quand même une belle chose. Mais c'est sûr que voilà, de mon côté à moi, j'espère un petit peu plus. Et donc cette année, avec un peu plus d'expérience, avec des gens que je connais bien, parce que c'est vrai qu'avant d'aller chez Envision, j'ai quand même passé 8 ans chez Nissan, Renault, Idams, enfin un petit peu la chronologie des choses. Donc voilà, je suis content d'être là où je suis. Et, on a une course déjà ce week-end au Brésil.
Justement, j'avais pas prévu de vous poser les questions dans cet ordre-là, mais on va changer un petit peu. Vous êtes arrivé en Formule E, effectivement, avec Idams, l'équipe de Jean-Paul Driot. J'ai l'impression que cet équilibre qu'il y a eu, et qui continue d'ailleurs, entre le statut de pilote usine en endurance chez Toyota, donc grosse équipe, et puis des équipes en Formule E qui étaient familiale, mais c'est vraiment pas péjoratif hein, ce que je dis. Dams c'était très très fort, et d'ailleurs vous avez été titré avec eux. Envision, on l'a dit. Est-ce que vous avez besoin un petit peu de cet équilibre de ce côté un petit peu famille d'un côté? Alors je sais que chez Toyota il y a aussi c'est très convivial, mais ces deux aspects de la chose, j'ai l'impression que vous avez besoin de ça pour avoir un équilibre.
Ouais, alors j'y ai jamais tellement pensé parce que c'est vrai que j'essaie d'optimiser ma situation, de rouler dans les meilleures voitures possibles, dans la meilleure équipe possible, hein, pour me donner le plus de chances possible de gagner des courses. Après, Envision, c'était une très bonne opportunité pour moi. Déjà, c'est pas un constructeur, ce qui fait que le lien avec Toyota est beaucoup plus facile à manager que si vous roulez pour Nissan. Il n'y a pas besoin de s'en cacher là, de ce côté-là. Et puis d'un autre côté, c'est une équipe qui bénéficie d'un bon budget avec pas mal de gens, avec un super powertrain. Donc, disons une équipe qui peut vraiment se battre aux avant-postes. Et après, on va dire les 2 dernières années chez Nissan qui ont été très compliquées, c'était pour moi important d'essayer de retrouver une place qui me permette de me battre aux avant-postes.
À quel point êtes-vous complémentaire aussi avec Robin Frintz? Est-ce qu'il met un petit peu de piment aussi dans cette équipe, dans la relation? On sait que c'est un garçon de caractère.
Vous êtes pas mal non plus dans ce domaine-là.
Bah, il en faut, il en
On se
faut.
connaît
Ouais,
maintenant,
Bon, pour être un champion.
on se connaît depuis pas mal d'années maintenant, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien l'équipe, hein, puisqu'il a fait quasiment toutes ses saisons dans cette équipe. Il est juste parti chez Apt l'année passée. Il est revenu cette année. Donc voilà, il connaît tout le monde dans l'équipe. Il a l'habitude. C'est un pilote qui a une très belle pointe de vitesse. Il a marqué beaucoup de points, beaucoup de podiums, des victoires. Donc disons, c'est une valeur sûre de la Formule 1.
On peut parler du format sportif, un petit peu de la Formule 1, Sébastien, avec vous. Alors pour l'instant, vous êtes huitième du championnat. Bon, vous restez sur un passage en Arabie Saoudite qui a été très frustrant après un podium au Mexique qui était très prometteur. On a le sentiment, et honnêtement, je dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, mais on a le sentiment qu'il y a quand même un format sportif. Qui est intéressant et qui paraît équitable. Après des saisons où, notamment en qualification, c'était quand même assez difficile de garder une équité, on n'est pas loin de la vérité. Vous voyez des choses qu'on pourrait encore améliorer dans cette discipline ?
Alors oui, certes, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais dans l'ensemble, en termes d'équité, en qualif, maintenant, c'est quand même beaucoup plus juste. On a deux groupes, 11 minutes, les quatre meilleurs passent en duel. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'excuse comme il y avait par le passé, l'excuse de dire j'étais dans le groupe 1, c'est le moment où la piste n'est pas bonne. Là, c'est un peu plus équitable de ce côté-là. Après, je pense que l'ancienne manière de faire la qualif mettait un petit peu de piment là aussi, hein, parce que ça tendait à faire partir les favoris ou les meilleurs un peu plus sur l'arrière de la grille. Maintenant, c'est comme ça. Je dirais que dans l'ensemble, le championnat est très bien. Des fois, peut-être un petit peu compliqué à comprendre en termes des pénalités ou du règlement. Mais sinon, je trouve que voilà, il est bien, il évolue bien. La voiture a fait quand même un step depuis qu'on a la Gen 3. L'année prochaine, il y aura la 3.5, qui est donc une voiture un petit peu évoluée de l'actuelle, qui devrait donc être plus compétitive aussi. Donc voilà, moi, je me réjouis du futur.
J'avais une question par rapport à ces tracés urbains qui ont été la marque de fabrique vraiment dès le départ de la Formule E. Et on voit que la Formule 1 va vers cette offre-là de circuits urbains pour se rapprocher du public, pour gagner en audience. Finalement, la Formule E a installé des bons codes d'entrée qui sont une inspiration maintenant pour la Formule 1. Vous allez peut-être le voir encore à Sao Paulo en étant plus près du public que vous ne pourriez peut-être l'être sur le circuit d'Interlagos. Ça aussi, c'est bien, c'est quelque chose de différent.
Ouais, c'est quelque chose de très différent. Maintenant, organiser un circuit en ville, c'est très compliqué, ça coûte plus cher, il y a beaucoup plus de problèmes. Donc, c'est vrai que la Formule E, elle avait besoin de rouler sur ses propres circuits. Et ses propres circuits, je dirais, voilà, les centres-villes étaient l'idéal. Maintenant, avec des voitures de plus en plus puissantes, organiser dans les centres-villes, ça devient compliqué. Du reste, cette année, on a perdu la piste de Rome, qui était une belle piste, mais peut-être un peu dangereuse. La Formule 1, bah, on voit qu'à chaque fois qu'ils organisent une course en ville, c'est quand même compliqué, ils doivent s'y prendre plusieurs années à l'avance. On a vu Las Vegas, on en a parlé pendant 2-3 ans de circuit au Miami. Donc, ça reste quand même très compliqué à organiser. Mais on voit qu'il y a une tendance à vouloir rouler de plus en plus en ville. On voit que ça met un peu plus de glamour et les courses peuvent être tout aussi intéressantes.
La prochaine course est donc dès le week-end prochain à Sao Paulo. Je me doute un peu de la question vous connaissant, mais je vous la pose quand même. C'est quoi l'objectif au Brésil ?
L'objectif, c'est de gagner, en tous les cas, de se battre aux avant-postes. On revient d'un week-end très compliqué en Arabie Saoudite où on ne marque pas de points. Alors, c'était sur le papier assez prometteur. On a juste eu des problèmes, pas fait le boulot quand il fallait. Donc, ça reste un moment un peu frustrant, surtout que le Mexique s'était très bien passé avec une deuxième place en partant de la première ligne. Donc là, on veut un petit peu rebondir et essayer de se rapprocher de nos performances du Mexique.
Vous avez 35 ans, Sébastien. Comment est-ce qu'on aborde cette étape ? Alors, on a vu encore rouler, là, il y a moins de 24 heures, hein, Fernando Alonso, que vous avez bien connu et qui prouve que, sur certains, les années passent sans laisser de traces. Est-ce que vous êtes de cette veine-là ou est-ce que vous commencez à imaginer un petit peu d'autres projets ?
Bah, actuellement, je m'imagine plus rouler que faire quelque chose d'autre. Donc, je m'imagine continuer encore longtemps. Après, je pense que les performances vont décider un petit peu du futur. Hein. Je pense que on se doit d'être compétitif et d'être rapide. Hein. Fernando, il l'est. Je veux dire, il a prouvé maintenant depuis une année et demie qu'avec une bonne voiture, il peut se battre pour le titre ou en tous les cas pour des podiums. Donc je pense que voilà, il faut montrer sur la piste qu'on est rapide. Après, l'âge, je pense pas que ce soit très important.
Alors, on va faire le lien avec la Formule 1. D'après les déclarations de Fred Vasseur, le patron de Ferrari, qui a dit, ben moi, j'ai choisi de faire rouler Oliver Berman à Jeddah, plus que Antonio Giovinazzi, qui pouvait aussi l'être, parce que j'estime que maintenant, on ne peut plus vraiment être réserviste en F1 et être titulaire en WEC, qui est devenu, qui se densifie. On a vu le plateau de qualité qu'on a cette année. Est-ce que c'est vrai qu'on va vers ça, qu'on ne pourra plus avoir la double casquette à l'avenir?
Honnêtement, je ne sais pas. Après, c'est vrai que je crois que Giovinazzi, il ne peut pas être présent de toute façon sur toutes les courses, puisque il fait le WEC, qui a plus de courses en WEC, donc je pense qu'il parlait plus au niveau du timing. Après, Schwartzmann et Giovinazzi avaient pas de course en WEC, donc je sais pas s'ils étaient en test et puis que c'est tombé comme ça. Mais on voit que son choix a été le bon, puisque Berman a fait une superbe course. Il a fait des essais en plus en GP, en F2 juste avant, donc il connaissait bien la piste, il était bien rodé. Puis après, bon, il a fait un travail exceptionnel.
Ah, justement, un mot sur la performance aussi de Biermann pendant cette course, avec cette septième place pour un premier Grand Prix. Est-ce que c'est la septième place d'une Ferrari? Faut pas l'oublier. Ou est-ce que ça reste quand même une sacrée performance à son âge de monter dans une F1? Vous savez ce que c'est de monter dans une F1 et de devoir performer, c'est pas facile.
Non, ça reste exceptionnel ce qu'il a fait. Je veux dire, peu importe, il a pas fait d'erreur, il n'est pas sorti. Il a loupé la Q3 pour 30 millième, un truc comme ça. Donc, non, rien à dire, c'était exceptionnel. Voilà, Leclerc montre que la voiture peut terminer potentiellement troisième. Donc, on pouvait espérer quoi, quatrième. Mais bon, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Je veux dire, je suis très admiratif.
Alors, vous êtes aussi le pilote de l'ombre chez Red Bull. Et on a vu sur la première manche du championnat, Max Verstappen expliquer qu'en fait, l'équipe n'avait pas encore mis les doigts précisément sur les réglages. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté au simulateur? Il fallait balayer toute une panoplie, un setup complet pour essayer de se rapprocher de la solution qui a été manifestement atteinte pour la deuxième manche du championnat. Mais quelle a été votre contribution sur la première course et sur la deuxième? Puisqu'on le rappelle, vous tournez pour préparer les essais, ouais, pour faire une approche de réglage.
Alors bon, j'ai fait tous les essais officiels de Bahreïn, je les ai faits dans le simulateur. Avant ça, j'y suis allé quelques fois en début d'année. Après, pour le Grand Prix de Bahreïn, c'était pas moi parce que j'étais au Qatar. Mais là, j'étais dans le simulateur pour Jeddah. Et voilà, faut pas oublier qu'en F1 aujourd'hui, on commence à rouler avec la voiture 3 jours. Les 3 jours de test juste avant la première course, sur un circuit qu'on connaît quand même parfaitement, Bahreïn, ça reste malgré tout un petit peu difficile d'avoir une idée bien claire de ce que la voiture est capable de faire, de quelles sont ses forces et ses faiblesses. Donc on a besoin de plusieurs grands prix pour être sûr de bien comprendre qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche mieux que prévu, moins bien que prévu. Et donc là, on est encore un petit peu on tapote un petit peu encore sur certains réglages, on essaie de trouver une voie qui va nous permettre d'être compétitifs. Mais bon, à la piste, ils ont fait un super boulot et Max et Sergio ont bien utilisé la voiture.
Merci beaucoup Sébastien.
Merci à vous.
On vous dit merde pour cette saison 2024 qui a donc commencé par le Qatar. Et puis on vous surveillera évidemment et on essaiera de vous avoir de nouveau dans les fous du volant parce que c'est toujours un plaisir.
Merci à vous, hein. Au revoir.
Et bon voyage vers le Brésil. Je dis juste à ceux qui voudraient regarder la course avec Sébastien Buemi et tous les autres, hein, parce qu'il y en a quand même quelques autres pilotes qui nous intéressent. Ça sera donc à 17h45 samedi sur l'antenne d'Eurosport 2. C'est mon camarade Fabien Gérard qui va commenter, parce que moi je serai sur le biathlon. Il sera épaulé par Yann Erlaché, que vous devez connaître. Donc c'est 17h45 sur Eurosport 2. Merci Sébastien.
Merci Seb.
Merci, au revoir.
Et ben voilà mon cher Stéphane, on a encore passé un excellent moment avec Sébastien Buemi. On a essayé de balayer aussi large que possible, hein, 3 disciplines avec un seul pilote, c'est quand même, puis pas n'importe quel pilote, c'est quand même c'est toujours un régal.
Et puis qui touche du doigt la victoire à chaque fois. Alors voilà, en Formule 1 c'est vraiment Celui qui teste, hein, le vendredi soir, qui fait aussi le bilan, qui rebalaye les réglages, qui cherche des solutions. C'est pour ça que l'écurie se permet de changer des réglages le samedi matin et hop, ça marche d'un seul coup, mais c'est pas par magie. C'est le travail aussi de Sébastien. Voilà. Et puis, bon, qui vise la victoire en WEC, en Formule 1, c'est clair qu'il est, il est vraiment dans ses belles années. Des fois, on reçoit des pilotes glorieux qui ont un palmarès XXL long comme le bras. Là, c'est une légende qu'on a eue dans les fous du volant. On en était très heureux et qui est au cœur de ses belles années en sport auto.
Et puis, construction du palmarès encore en cours. Hein. Ah bah. Vous avez vu les trophées sur les étagères derrière.
Ah, il y a de la place.
Et, oui, alors non, il a dit il n'y a plus de place. Je crois qu'il va refaire d'autres étagères. Il va falloir qu'il en refasse d'autres. Eh ben merci beaucoup Stéphane. On a passé encore un bon moment dans les fous du volant aujourd'hui. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles. Vous abonner pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas les fous du volant, vu qu'il n'y a pas de Grand Prix le week-end qui vient. Donc abonnez-vous, comme ça dans 2 semaines, quand on refera un fou du volant, eh ben ça arrivera directement sur votre smartphone. Donc on fait une petite pause là. On sera dispensé de fou du volant la semaine prochaine. On coupe le contact un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais on se retrouve donc dans 15 jours. Et d'ici là,
on coupe le contact.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.